Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici que depuis quelques semaines, nous vous invitons quotidiennement à pénétrer avec nous dans la mystique des grands moines du désert, en Égypte, en Palestine et en Russie essentiellement, du 3e au 20e siècle. Nous renouons ainsi, grâce à ces racines communes, avec nos frères orthodoxes, dont la théologie ne s'est jamais séparée de l'expérience mystique. Continuons aujourd'hui avec Séraphim de Sarov. Quand la prière se purifie au point de céder le pas à l'Esprit Saint.
Alléluia, alléluia.
Séraphim poursuit son entretien avec son ami Motovilov devant lequel il a vécu la transfiguration. Oh, j'aimerais, ami de Dieu, qu'en cette vie, vous soyez toujours en l'Esprit Saint. Je vous jugerai dans l'état dans lequel je vous trouverai, dit le Seigneur. Malheur, grand malheur, s'il nous trouve appesantis par les soucis et les peines terrestres. Car qui peut endurer son courroux et qui peut lui résister? C'est pourquoi il a été dit, veillez et priez pour ne pas être induit en tentation. Autrement parlant, pour ne pas être privé de l'Esprit de Dieu, car l'éveil et la prière nous donnent sa grâce. Il est certain que toute bonne action faite au nom du Christ confère la grâce du Saint-Esprit. Mais la prière, plus que toute autre chose, étant toujours à notre disposition. Vous auriez par exemple envie d'aller à l'église, mais l'église est loin, où l'office est terminé. Vous auriez envie de faire l'aumône, mais vous ne voyez pas de pauvres, ou vous n'avez pas de monnaie. Vous voudriez rester vierge, mais vous n'avez pas assez de force pour cela. À cause de votre constitution ou à cause des embûches de l'ennemi, auxquelles la faiblesse de votre chair humaine ne vous permet pas de résister. Vous voudriez peut-être trouver une autre bonne action à faire au nom du Christ, mais vous n'avez pas assez de force pour cela, où l'occasion ne se présente pas. Quant à la prière, rien de tout cela ne l'affecte. Chacun a toujours la possibilité de prier, le riche comme le pauvre, le notable comme l'homme du commun, le fort comme le faible, le bien portant comme le malade, le vertueux comme le pécheur. On peut juger de la puissance de la prière, même pécheresse, sortant d'un cœur sincère, par l'exemple suivant rapporté par la Sainte Tradition. À la demande d'une malheureuse mère qui venait de perdre son fils unique, une courtisane qu'elle rencontra sur son chemin, touchée par le désespoir maternel, osa crier vers le Seigneur, toute souillée qu'elle était encore par son péché. « Non à cause de moi, horrible pécheresse, mais à cause des larmes de cette mère, pleurant son fils, tout en croyant fermement en ta miséricorde et en ta toute-puissante, ressuscite-le, Seigneur. » Et le Seigneur le ressuscita. Telle, ami de Dieu, est la puissance de la prière. Plus que toute autre chose, elle nous donne la grâce de l'Esprit de Dieu. Et plus que tout, elle est toujours à notre portée. Bienheureux serons-nous lorsque Dieu nous trouvera veillants dans la plénitude des dons de son Saint-Esprit. Nous pourrons alors espérer être ravis sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur venant dans les airs, revêtu de puissance et de gloire, juger les vivants et les morts et donner à chacun son dû. Vous estimez, amis de Dieu, que c'est un grand bonheur de pouvoir vous entretenir avec le misérable Séraphim, persuadé que vous êtes qu'il n'est pas dépourvu de grâce. Que dirions-nous alors d'un entretien avec Dieu lui-même, source inépuisable de grâce céleste et terrestre? C'est par la prière que nous devenons dignes de nous entretenir avec lui, notre vivifiant et miséricordieux sauveur. Mais là encore, il ne faut prier que jusqu'au moment où le Saint-Esprit descend sur nous et nous accorde, dans une certaine mesure, connue de lui seul, sa grâce céleste. Visité par lui, il faut s'arrêter de prier. En effet, à quoi bon l'implorer ? Viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Quand il est déjà venu, en réponse à nos humbles et aimantes sollicitations, dans le temple de nos âmes, assoiffées de son avènement. Je vous expliquerai ceci par un exemple. Supposons que vous m'ayez invité chez vous, que je sois venu avec l'intention de m'entretenir avec vous, mais que malgré ma présence, vous ne cessiez de répéter « Veuillez entrer, chez moi ». Je penserai certes, qu'a-t-il ? Il n'a plus sa tête. Je suis chez lui et il continue de m'inviter. La même chose est vraie concernant le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a été dit « Éloignez-vous et comprenez que je suis Dieu. Je m'élèverai parmi les nations, je m'élèverai de terre. » Ce qui signifie « J'apparaîtrai et continuerai à apparaître à chaque croyant et je converserai avec lui. » Comme je conversais avec Adam au paradis, avec Abraham et Jacob, et mes autres serviteurs, Moïse, Job et leurs semblables. Beaucoup croient que cet éloignement doit être interprété comme ayant trait aux affaires de ce monde, c'est-à-dire qu'en parlant à Dieu dans la prière, il faut s'écarter de tout ce qui est terrestre. Certes, mais moi, en Dieu, je vous dirais que malgré le fait qu'il soit nécessaire pendant la prière de s'en écarter, il faut, quand le Seigneur Dieu, l'Esprit Saint nous visite et vient en nous dans la plénitude de son indicible bonté, s'écarter de la prière aussi, supprimer la prière même. L'âme priante parle et profère des paroles, mais à la descente du Saint-Esprit, il convient d'être absolument silencieux, afin que l'âme puisse entendre clairement et bien comprendre les annonces de vie éternelle qu'il daigne alors apporter. L'âme et l'esprit doivent se trouver en état de sobriété complète et le corps en état de chasteté et de pureté. C'est ainsi que les choses se passèrent au mont Horeb, quand Moïse ordonna aux Israélites de s'abstenir des femmes 3 jours durant, avant la descente de Dieu sur Sinaï. Car Dieu est un feu dévorant. Et rien d'impur, physiquement ou spirituellement, ne peut entrer en contact avec lui. ce qu'on appelle voir Dieu. Oui, faites de commerce spirituel avec de la vertu. Distribuez les dons de la grâce à qui les demande en vous inspirant de l'exemple suivant. Un cierge allumé, tout en brûlant d'un feu terrestre, allume sans pour autant perdre de son éclat d'autres cierges qui éclaireront d'autres lieux. Si telle est la propriété du feu terrestre, que dire du feu de la grâce du Saint-Esprit ? La richesse terrestre distribuée diminue. Quant à la richesse céleste de la grâce, elle ne fait qu'augmenter chez celui qui la propage. Ainsi le Seigneur lui-même a dit à la Samaritaine, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car elle deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Père, lui dis-je, vous parlez toujours de l'acquisition de la grâce du Saint-Esprit comme du but de la vie chrétienne, mais comment puis-je la reconnaître ? Les bonnes actions sont visibles, mais l'Esprit Saint peut-il être vu ? Comment puis-je savoir si, oui ou non, il est en moi ? À l'époque où nous vivons, répondit le Staretz, on est parvenu à une telle tiédeur dans la foi, à une telle insensibilité à l'égard de la communion avec Dieu, qu'on s'est éloigné presque totalement de la vraie vie chrétienne. Des passages de l'Écriture sainte nous paraissent étranges aujourd'hui. Par exemple, quand l'Esprit Saint, par la bouche de Moïse, dit « Adam, voyez Dieu se promenant au paradis ». Et quand nous lisons chez l'apôtre Paul qu'il a été empêché par l'Esprit Saint d'annoncer la parole en Asie, mais que l'Esprit l'accompagna lorsqu'il se rendit en Macédoine. Dans beaucoup d'autres passages de l'Écriture sainte, il est à maintes reprises question de l'apparition de Dieu aux hommes. Alors certains disent « Ces passages sont incompréhensibles. Peut-on admettre que des hommes puissent voir Dieu d'une manière aussi concrète ?» Cette incompréhension vient du fait que sous prétexte d'instruction, de science, nous nous sommes engagés dans une telle obscurité d'ignorance que nous trouvons inconcevable tout ce dont les anciens avaient une notion assez claire pour pouvoir parler entre eux des manifestations de Dieu aux hommes comme de choses connues de tous et nullement étranges. Ainsi Job, quand ses amis leur reprochaient de blasphémer Dieu, il répondait « Comment cela peut-il être quand je sens le souffle du Tout-Puissant dans mes narines ?» Autrement dit, comment puis-je blasphémer Dieu quand l'Esprit-Saint est avec moi ? Si je blasphémais Dieu, le Saint-Esprit me quitterait, mais je sens sa respiration dans mes narines. Abraham et Jacob ont conversé avec Dieu. Jacob a même lutté avec lui. Moïse a vu Dieu et tout le peuple avec lui. Quand il reçut les tables de la loi sur le Sinaï, une colonne de nuée, de feu, la grâce visible de l'Esprit-Saint, servait de guide au peuple hébreu dans le désert. Les hommes voyaient Dieu et son esprit, non pas en rêve ou en extase, fruit d'une imagination maladive, mais en réalité. Inattentifs, comme nous sommes devenus, nous comprenons les paroles de l'Écriture autrement qu'il ne faudrait. Et tout cela parce que, au lieu de rechercher la grâce, nous l'empêchons, par orgueil intellectuel, de venir habiter nos âmes et de nous éclairer comme le sont ceux qui de tout leur cœur cherchent la vérité.
Thank you.
l'arbre de vie et le péché originel. Beaucoup, par exemple, interprètent les paroles de la Bible « Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, insuffla dans ses narines une haleine de vie », comme voulant dire que jusqu'alors il n'y avait en Adam ni âme ni esprit humain, mais une chair seulement créée de la glaise du sol. Cette interprétation n'est pas juste, car le Seigneur Dieu a créé Adam de la glaise de sol dans l'état dont parle l'apôtre Paul quand il affirme que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaits à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces trois parties de notre être furent créées de la glaise du sol. Adam ne fut pas créé mort, mais créature animale agissante, semblable aux autres créatures vivant sur terre et animées par Dieu. Mais voilà qui est important. Si Dieu n'avait pas insufflé ensuite dans la face d'Adam ce souffle de vie, c'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit procédant du Père et reposant sur le Fils, et envoyé dans le monde à cause de lui, tout parfait qu'il était et supérieur aux autres créatures, Adam serait resté privé de l'esprit déifiant. Il serait semblable à toutes les créatures ayant chair, âme et esprit, conformément à leurs espèces, mais privé à l'intérieur de l'Esprit Saint qui apparente à Dieu. À partir du moment où Dieu lui donna le souffle de vie, Adam devint, d'après Moïse, une âme vivante, c'est-à-dire en tout semblable à Dieu, éternellement immortel. Adam avait été créé invulnérable. Aucun des éléments n'avait pouvoir sur lui. L'eau ne pouvait pas le noyer. Le feu ne pouvait pas le brûler. La terre ne pouvait pas l'engloutir. Et l'air ne pouvait pas lui nuire. Tout lui était soumis comme au préféré de Dieu, comme au propriétaire et roi des créatures. Il était la perfection même, la couronne des œuvres de Dieu, et admiré comme tel. Le souffle de vie qu'Adam reçut du Créateur le remplit de sagesse, au point que jamais il n'y aura un homme aussi rempli de connaissances et de savoir que lui, Adam. Quand Dieu lui ordonna de donner des noms à toutes les créatures, il les nomma selon les qualités, les forces et les propriétés de chacune conférées par Dieu. Ce don de la grâce divine, supranaturelle, venant du souffle de vie qu'il avait reçu, permettait à Adam de voir Dieu se promenant dans le paradis et de comprendre ses paroles, ainsi que la conversation des saints anges et le langage de toutes les créatures, des oiseaux, des reptiles vivant sur terre, tout ce qui nous est dissimulé à nous pécheurs depuis la chute, mais qui avant la chute était tout à fait clair pour Adam, la même sagesse, la même force et le même pouvoir, ainsi que toute autre sainte et bonne qualité, avait été conféré par Dieu à Ève au moment de sa création, non de la glaise du sol, mais d'une côte d'Adam, dans l'Éden des délices, au paradis éclos, au milieu de la terre. Afin qu'Adam et Ève puissent toujours commodément s'entretenir en eux, leurs propriétés immortelles, parfaites et divines, venant du souffle de vie, Dieu planta au milieu du paradis l'arbre de vie, dans les fruits duquel il enferma toute la substance et la plénitude des dons de son divin souffle. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient pu, eux et leurs descendants, en mangeant des fruits de cet arbre, entretenir en eux la force vivifiante de la grâce divine, ainsi qu'une plénitude immortelle, éternellement renouvelée, des forces corporelles, psychiques et spirituelles, un non-vieillissement perpétuel, un état de béatitude qu'actuellement notre imagination a de la peine à se représenter. Mais ayant goûté au fruit de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, avant l'heure, et contrairement au commandement de Dieu, ils connurent la différence entre le bien et le mal, et devinrent la proie des désastres qui s'abattirent sur eux après qu'ils eurent enfreint le commandement divin. Ils perdirent le don précieux de la grâce du Saint-Esprit. Et jusqu'à la venue sur terre de Jésus-Christ, Dieu homme, l'Esprit n'était pas dans le monde, car Jésus n'était pas encore glorifié. Saint Jean chapitre 7. Ceci ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ait totalement abandonné le monde, mais sa présence n'était pas aussi manifeste qu'elle l'était en Adam, ou qu'elle l'est en nous, chrétiens orthodoxes. Mais elle restait extérieure, et les hommes le savaient. Ainsi, par exemple, beaucoup de secrets concernant le salut futur de l'humanité furent révélés à Adam et Ève après la chute. Malgré son crime, Caïn put entendre la voix divine proférant des reproches. Noé conversa avec Dieu. Abraham vit Dieu et son jour et s'en réjouit. La grâce du Saint-Esprit se manifestait extérieurement dans tous les prophètes de l'Ancien Testament et dans les saints d'Israël. Les Juifs avaient même des écoles spéciales pour apprendre à discerner les signes des apparitions de Dieu ou des anges et à différencier les actions du Saint-Esprit des événements de la vie ordinaire, privés de grâce. Siméon, Joachim et Anne, et de nombreux autres serviteurs de Dieu, étaient souvent gratifiés par des manifestations divines. Ils entendaient des voix, recevaient des révélations confirmées ensuite par des événements miraculeux, mais véridiques. À notre prochain rendez-vous, Séraphim de Sarov nous parlera de l'Esprit de Dieu chez les païens. Il nous parlera également du baptême et de la Pentecôte.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.